Chapitre 18. Sagas se réveille au son de la boîte aux lettres. Le courrier tombe sur le sol de l'entrée dans un bruit sourd. Sa chambre est baignée de lumière. Il est 6h30 et le soleil brille derrière le rideau. Elle se tourne sur le côté et ferme de nouveau les yeux. Elle est rentrée tard la veille et elle aurait aimé pouvoir dormir quelques heures de plus. Elle repense aux trois hommes dans le sous-sol, au fait qu'ils n'arrêtaient plus de la prendre en photo et que Karl a essayé de lui acheter un objet lui appartenant avant qu'elle ne parte. Ses chaussettes, son élastique à cheveux, peu lui importaient. Saga tend la main vers le portable posé sur la table de chevet et réalise soudain qu'il est bien trop tôt pour le facteur. Elle bondit de son lit, attrape son arme sur la commode et court vers le couloir. Un paquet repose sur le sol. Elle déverrouille la porte, dévale les escaliers et se précipite dans la rue en culotte. La Tavastgatan est déserte. Elle court pieds nus jusqu'au croisement avec la Blecktornsgrent. Les escaliers qui descendent vers Hornsgatan sont vides. Sur le trottoir, devant un café, un homme âgé avec un déambulateur la fixe d'un air interloqué. Elle retourne chez elle, verrouille la porte et, son arme à la main, fait un tour rapide de l'appartement. Après avoir enfilé des gants en latex, elle saisit le paquet sale et endommagé et le pose sur la table de la cuisine. Puis elle contacte ses collègues de la cellule d'enquête sur Raquel. « Bonjour, Saga !» répond Manvir d'une voix claire comme s'il était réveillé depuis des heures. « Tout le monde est dans la conversation sauf Peter, » dit Juna. « Bon, je crois que je viens de recevoir une nouvelle figurine, » explique Saga. Un paquet est arrivé chez moi à l'instant, il y a quelques minutes.
Mais tu n'as pas vu qui...
Non, je dormais et j'ai été un peu trop lente. Tu n'as pas ouvert le paquet? Demande Greta. J'ai mis des gants et...
On s'en fout des empreintes digitales et des fibres. L'interrompt Juna. Ouvre-le! Il y a urgence si on veut arriver avant le tueur cette fois-ci.
Elle arrache le ruban adhésif, déplie les rabats de la boîte et en sort un petit sachet en tissu blanc. Elle pose sur la table. Elle déplie ensuite un bout de papier journal froissé dans lequel se trouve un petit homme en étain. C'est bien une figurine, confirme-t-elle.
On a peut-être une chance d'avoir un temps d'avance dans le jeu,
commente Manvir, le souffle court.
Tu vois qui ça représente? Demande Juna.
Non, le visage est tout aplati. Je prends une photo. Saga pose la figurine gris-argentée sur la table dans la lumière du matin, la photographie et agrandit l'image. On ne distingue aucun trait du visage déformé. Juste un grand front, une oreille et l'arrondi de la tête. Elle envoie l'image aux autres. Il s'agit d'un homme mince, légèrement plus grand que les précédents, peut-être 2,5 cm. Il porte un costume, une mallette et de grosses chaussures.
Saga, qu'est-ce qu'il y a au dos?
Demande Juna au bout d'un moment. Elle saisit la figurine en étain et voit que ce qu'elle avait pris pour les traces du moule est en fait un motif sculpté sur le dos de la veste. Quelque chose est gravé. On dirait plein de petits nuages. Je sais pas, c'est presque pas visible. Je vais essayer de prendre une meilleure photo. Qu'est-ce que ça nous révèle de la prochaine victime? Demande Greta. Impossible à dire. Répond Saga.
Merde, murmure Greta. Passons à l'emballage, tranche Juna.
Le temps presse, lui rappelle Greta. On a un article de journal froissé et un mouchoir blanc en tissu, précise Saga.
De quoi parle l'article? Demande Manvir.
D'une station de métro abandonnée
et de l'autre côté,
de la prolifération des algues dans l'archipel de Stockholm.
Est-ce que le mouchoir a quelque chose de spécial?
Demande Juna. Il a un monogramme, ou comment ça s'appelle? Un A brodé dans un coin.
Retournons à l'article sur l'eau, propose-t-il.
Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur le métro, dit Saga.
Est-ce qu'un endroit spécifique est mentionné sur la prolifération des algues?
Non, mais il y a un tableau avec plein de noms de lieux. Tirse, Sturecker, Vermde, Naka, Salzstjobaden, Ingare.
Continuons avec la station de métro, dit Manvir. Est-ce que c'est Kumling?
Demande Juna. Oui, Je contacte le central, lance Greta. Lis attentivement les deux articles. Nous devons savoir si d'autres endroits sont mentionnés ou évoqués. Alors que Saga essaie de se concentrer sur sa lecture, elle entend Greta parler au téléphone. Quatre voitures dans la zone répondent à l'appel. Saga parcourt les deux textes. Son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. Le seul endroit mentionné est la station fantôme de la ligne bleue, Kumling, située entre Hallenbergen et Kista. Il était prévu d'y déplacer un certain nombre de services administratifs du centre de Stockholm. Lorsque le gouvernement a décidé de délocaliser ses administrations dans différentes régions de la Suède, la construction, presque achevée, s'est arrêtée. « Aucun autre endroit », conclut-elle.
« Je file à Kumling », décide Juna.
« Je te retrouve là-bas », lâche Saga. Et elle met fin à la conversation avant que quelqu'un ait le temps de protester.
Werner Zanden chausse ses lunettes, se faufile hors de la chambre, ferme soigneusement la porte derrière lui pour ne pas réveiller sa femme Maya et descend l'escalier. La grande maison est plongée dans une douce pénombre. Le parquet en chêne craque à chacun de ses pas. À la CEPO, tout est secret, sauf l'identité du chef, songe Werner. Son nom et sa photo sont partout. Avant-hier, un petit homme insipide, au visage pâle et aux lunettes rondes, l'a suivi au supermarché Ika Maxi. Werner a remarqué que l'homme le photographiait en cachette à plusieurs reprises. Ce genre de comportement n'est pas inhabituel, mais celui-ci était différent des autres. Il ne souriait pas, ne manifestait pas d'enthousiasme, il avait plutôt l'air d'un collectionneur morose.
« Un collectionneur d'âmes ?» a suggéré Maya quand Werner lui en a parlé.
Et cette nuit, l'homme insipide était dans son rêve à propos de Sébastien. Werner rêve toujours de son petit frère, né avec une double colonne vertébrale. Sébastien est mort au cours d'une de ses nombreuses opérations quand il avait 11 ans. Parfois, ses rêves sont immensément tristes. Werner et son père sont assis dans une petite salle d'attente, et le médecin entre leur expliquer que l'opération a mal tourné. Werner tombe à genoux et fond en larmes, submergé par un chagrin infini. Ou alors il regarde son père se précipiter dans la neige en hurlant comme un animal blessé. D'autres fois, il fait des cauchemars dans lesquels il est poursuivi par Sébastien à travers toutes les pièces de la maison. La colonne vertébrale sous-développée de son frère traîne derrière lui comme une lourde queue, rebondit sur le seuil des portes et se fracasse contre les murs. Et cette nuit, le collectionneur insipide d'Ika Maxi s'est retrouvé dans son rêve. Il opérait Sébastien avec un couteau de cuisine, coupait les tissus et les membranes dans son dos pour mettre à nu les deux colonnes. Il les enroulait ensuite avec des serviettes en papier, puis les séparait, comme on écarte une fermeture éclair. Werner s'est réveillé en sursaut. Et il est resté un long moment étendu à côté de Maya, la respiration haletante, avant de réussir à se lever. Il traverse le couloir sombre, passe devant les deux salons dont les fenêtres sont encadrées de gros rideaux en velours, et sort sur la véranda vitrée pour vérifier la météo, comme d'habitude. Il regarde la baie, entre les imposantes maisons qui bordent la mer. L'eau ondulante scintille dans la lumière du soleil levant. Chaque matin, avant le petit déjeuner, Werner court environ 5 kilomètres. Généralement, il prend de la vitesse quand il arrive à la réserve naturelle de Sverdze, continue le long d'Elgvegen jusqu'au Grand Hôtel, puis revient en passant de l'autre côté du lac. Mais le mardi, lorsqu'il travaille à la maison, il termine toujours son jogging par les bains en plein air de Saltsjöbaden, où il passe 1 heure tout seul. C'est son moment à lui. Werner siège au conseil d'administration de l'association, mais il paie toujours le plein tarif pour l'adhésion, ridiculement élevé pour quelqu'un qui va au sauna et fait trempette dans la mer seulement 4 fois par mois. Mais il apprécie l'atmosphère, le classicisme des années 1920, le silence et la solitude. C'est sa méditation, son moment de pleine conscience, qui l'aide à affronter le reste de la semaine. Après le sauna, il enfile ses vêtements, rentre à pied, prépare le petit déjeuner et monte un plateau à Maya,
Werner est tellement ébloui par la lumière du matin qu'il est presque aveuglé lorsqu'il repasse devant le salon. Un bruit sourd retentit, qui semble provenir du chauffe-eau de la cave, comme si une botte en caoutchouc avait été jetée dans le sèche-linge. Werner n'est pas très manuel, mais il a la gratitude de Maya chaque fois qu'il descend au sous-sol, retire le câble et le rebranche. Il continue dans le couloir sombre. La porte de la salle à manger est grande ouverte, obstruant la vue sur le jardin. N'aurait-il pas dû le remarquer en passant la première fois? Il s'arrête, regarde les canapés et la télé plongée dans la pénombre. Le service à thé chinois sur le buffet et l'aquarelle mélancolique de Lars Lerin sur le mur. Son verre de whisky de la veille est toujours sur la table. Et il ferme la porte et se dit qu'il va descendre au sous-sol, voir s'il peut arrêter le bruit. Il croit entendre des pas, se demande si Maya s'est réveillée pour prendre les choses en main. Mais la maison est terriblement calme. Il va dans l'entrée, prend ses vêtements de sport dans l'armoire séchante, se change, enfile ses baskets et son sac à dos, ouvre la porte, sort dans l'air frais du matin et traverse la pelouse. Tout le monde sera là ce week-end pour le dîner dominical. Les filles, leurs compagnons, les petits-enfants et les beaux-petits-enfants. Il se dit qu'il faudra qu'il nettoie le barbecue et aussi qu'il répète ses tours de magie. L'oncle soudeur d'un jeune secrétaire de la CEPO l'a aidé à construire un dispositif qui lui permet de faire léviter Maya. Werner descend jusqu'à l'entrée du garage, s'arrête, cale son pied droit contre le bac à fleurs en briques, puis s'élance sur le chemin. Les premières foulées sont toujours difficiles, mais aujourd'hui, il a l'impression de porter des chaussures de ski. Il essaie de mettre plus de poids sur l'avant de ses pieds et de fléchir ses orteils, mais il sait qu'il ressemble à un élan fatigué avec ses longues jambes. C'est du moins ce que lui a dit son voisin au printemps dernier, qui, et c'est le plus inquiétant, est un chasseur passionné, a souligné Maya. Il se sent un peu plus à l'aise lorsqu'il pénètre dans la forêt. Le sol sur la bande centrale du chemin en gravier est parfait. Le chant aigu d'un pivert sur un tronc d'arbre perce le bruissement endormi des feuillages. Werner repense au rêve avec Sébastien et le collectionneur, au bruit des deux colonnes vertébrales qui se déchiraient. Il accélère sa course dans la grande courbe où le chemin s'aplanit. Il a l'impression de courir dans une vaste salle remplie de colonnes. Une camionnette noire est arrêtée sur la route forestière devant lui. Elle n'a pas de plaque d'immatriculation et les côtés sont couverts de boue. Un sac poubelle plein gît dans le fossé juste derrière le véhicule. Les mouvements lents de la cime des arbres se reflètent dans le toit sombre.